Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Point de vue. Boris Chassagne au micro, je serai avec vous pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire, les Acadiens célébraient en grande le 15 août dernier leur culture, leur présence et leur résilience pour la fête nationale des Acadiens.
C'est de se rappeler qui on est, d'où on vient et d'où on va. Puis c'est une journée pour célébrer. C'est important de continuer cette tradition-là.
Ottawa annonçait avant le 15 août qu'il financera à hauteur de 4,6 millions de dollars le Congrès mondial acadien de 2024.
C'est de voir c'est quoi le potentiel de l'Acadie en termes de développement économique et de développement durable de nos régions par après. Ça devrait ouvrir la porte à des possibilités qui devraient être durables pour le long terme. Donc, j'espère voir des retombées durables dans nos deux régions pour un bon bout de temps.
Et une candidate d'origine Innu vient gonfler les rangs de l'équipe autochtone prête à défendre les couleurs de Québec solidaire lors des élections du 3 octobre prochain au Québec.
Je veux protéger la terre, le territoire parce que je l'aime puis elle me guérit. C'est ce que mes ancêtres m'ont légué. Puis je veux léguer une terre en santé aux futures générations aussi.
Le printemps et les parasites ont fait la vie dure aux abeilles et aux apiculteurs du Manitoba. Ils auraient perdu 57 % de leurs essaims.
On pensait de peut-être faire seulement 25 % de la production, mais je pense que on va peut-être être plus près à 50 % de la production. Mais...
Bienvenue à Point de vue.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Alors, vous le savez tous et toutes, on célébrait le 15 août dernier la fête nationale des Acadiens. En Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, les Acadiens faisaient grand bruit pour le Grand Tintamarre. Et nos journalistes postés dans l'Est du Canada n'ont pas raté leur chance de nous le rappeler. Le grand spectacle de la fête nationale de Pubnico au Nouveau-Brunswick a été retransmis d'ailleurs en direct sur les ondes de la télévision d'État. Les célébrations qui avaient lieu à Kedgewick, au Nouveau-Brunswick, ont pris une journée d'avance et notre journaliste Maxime Gauthier, posté à Saint-Quentin, pas trop loin de là, a été y faire un tour, se rincer les yeux et les oreilles. À Fredericton, on a procédé à la levée du drapeau officiel en compagnie de la mairesse de la ville, Donna Reardon, et Sébastien Caron a partagé ce moment solennel. On a deux reportages à vous présenter pour souligner cet anniversaire. Le premier nous parvient de Sébastien Caron, posté à Fredericton. Et là, la radio va parler de radio, car CJPN, la première radio communautaire francophone de la ville, aujourd'hui affiliée à trois autres stations de la même province, soufflait ses 25 bougies, donc presque en même temps que la fête des Acadiens. C'est le 22 août 1997 que CJPN, alias Radio Fredericton, effectuait son entrée en onde après 7 ans de réflexion et de préparation technique. Avant 1997, seul Radio-Canada permettait aux francophones de la capitale néo-brunswickoise d'écouter la radio dans leur langue maternelle. Cette radio, comme celle que vous écoutez d'ailleurs, a joué un rôle important dans la promotion et la protection de la langue française, mais aussi, parfois surtout, dans la diffusion de la culture francophone avec ses musiciens, écrivains, éducateurs, gens d'affaires, artistes visuels, par exemple. Retour donc sur l'histoire de cette radio avec Sébastien Caron, qui en parle d'abord avec la présidente de CJPN, Cathy Véro, et le directeur général de la station, Jason Ouellet.
Moi, je dirais qu'avoir une radio francophone à Fredericton, c'est essentiel parce que la communauté francophone, c'est la seule station qu'ils peuvent écouter vraiment dans la région. Donc, c'est important qu'on offre ce service-là. Puis, c'est important aussi qu'on accepte les francophiles, non seulement les francophones. Puis, ça fait, la preuve est là, 25 ans d'existence, wow, c'est tout un, comme les Anglais diraient, un milestone. Donc, c'est vraiment de quoi à célébrer. Puis, je suis vraiment fière d'être présidente pendant cette année qui est vraiment intéressante, là, le 25e anniversaire.
Une radio communautaire à des missions. On fait le point sur celle-ci avec Jason Ouellet, directeur général de la station.
C'est défendre les intérêts de sa communauté. Tu sais, c'est vraiment ça. Et promouvoir l'identité culturelle. Je veux pas trop sembler comme un guerrier, mais on l'est. On est des protecteurs de la langue. et on était protecteur de l'Acadie. On veut permettre à des gens d'avoir accès à cette source d'information et aussi à cette source de divertissement en français. Puis, il n'y a pas d'autres chaînes YouTube que vous pouvez trouver que vous allez entendre la patente dessus. Il n'y en a pas d'autres radios à Fredericton, hein, peut-être un peu Radio-Canada, mais pas régulièrement. Où est-ce que vous allez entendre Le Monde a bien changé de 1755 ou du Daniel Légère, un gars de Bouctouche, ou même le groupe Aboiteau, dont plusieurs des membres se retrouvent dans la région de Fredericton, ou si pas, je sais pas, on fait même la promotion de David Miles, qui est un artiste local anglophone, et aussi, je veux dire bilingue, mais de la région de Fredericton. On va les jouer, cet artiste, ces artistes-là, parce qu'on veut, un, être inclusif avec les différentes cultures, mais on veut faire la promotion de qui on est. Puis c'est ce qui développe un petit peu le talent. Parce que plus qu'il y a des gens de chez nous qui jouent de la musique, bien plus qu'on les voit comme des influenceurs, puis on veut être comme eux qui nous motivent à découvrir une passion, puis à écrire en français, puis à jouer de la musique en français. Fait que c'est la mission primaire de la station de radio, c'est d'avoir une source d'information en français et d'avoir une source de divertissement en français. Fait qu'on est là pour promouvoir la culture francophone et acadienne.
Célébrer les 25 ans de la radio, ce n'est pas uniquement regarder vers le passé, c'est déjà se projeter dans l'avenir. La présidente et le directeur général se rejoignent sur le fait que l'avenir est aussi sur les réseaux.
Pour avoir un autre 25 ans, je pense, puis Jason il serait d'accord avec moi, c'est on n'a pas le choix d'évoluer puis de suivre les tendances technologiques. Donc, la radio n'est plus, comme 25 ans passés, seulement radio. Il faut qu'on se connecte à tous les réseaux sociaux pour aller rejoindre justement la relève, la jeunesse, parce que la population est vieillissante. Donc, il faut aller chercher ces groupes d'âge-là, cette démographie-là, pour assurer la subsistance et la continuité de la radio.
L'avenir, c'est dans la création de contenu. Puis c'est un contenu qui sera multimédia. Ce qui veut dire que dorénavant, faut emprunter l'avenue de faire des vidéos-entrevues qui sont diffusées à la radio. Puis il faut emprunter l'avenue de tout ce qu'on fait. Bon, on va lui donner trois vies. Une vie sur un site web avec une nouvelle, une image et ton entrevue, comme tu l'as fait avec canadainfo.ca, juste petite parenthèse. L'autre vie, ça sera l'entrevue qu'on va envoyer sur les plateformes comme YouTube ou d'autres plateformes de vidéos. Et là, par la suite, on va faire la promotion par notre podcast, parce qu'on a une chaîne podcast, où ce que les gens peuvent nous écouter en continu, mais aller chercher des émissions qui les intéressent plus. Peut-être qu'aujourd'hui, ils veulent entendre Roland Gauvin et Pierre Robichaud, notre dernière discussion table ronde de la semaine dernière avec les membres de la formation 1755. Bien là, ils peuvent l'écouter quand qu'ils le veulent.
Ici Sébastien Caron pour IGL à Fredericton.
Bon anniversaire à ces JPN et à ces stations affiliées qui nous prêtent toute leur antenne pour vous joindre et pour diffuser l'émission que vous écoutez. Dans l'est du pays, on se déplace dans la province voisine de la Nouvelle-Écosse où les célébrations allaient bon train, d'autant que le gouvernement fédéral leur a donné une petite tape sur l'épaule pour les encourager en annonçant avant la date butoir et les célébrations du 15 août, donc de la fête nationale des Acadiens, qu'Ottawa allait injecter 4,6 millions de dollars dans l'organisation du prochain Congrès mondial acadien de 2024. Le Congrès mondial acadien se tient tous les 5 ans dans une communauté différente. L'annonce en a été faite par Ginette Petitpas-Taylor, ministre des langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique. La province donc fera sa part en investissant 2,5 millions dans l'événement et les municipalités hôtes de Clare et d'Argyle, 250 000 $ chacune. Le 7e CMA aura lieu du 10 au 18 août 2024 en Nouvelle-Écosse. De Chéticamp, Daniel Aucoin est en compagnie d'Alistair Surette, président du comité organisateur du Congrès mondial acadien 2024. Il nous parle de l'importance qu'a cette rencontre quinquennale aux yeux des Acadiens du pays et d'ailleurs.
Ben, je pense que c'est super important, et pas seulement pour le Sud. C'est,
c'est très important pour le Sud-Ouest et nos régions, pour sûr, pour essayer d'augmenter le sens d'appartenance, pour augmenter l'engagement à la communauté acadienne et francophone. Ça fait des merveilles, et même durant la préparation, les années menant à 2024. Il y en a plusieurs qui se préparent, que ce soit au secteur privé ou des organismes non lucratifs pour le Congrès. Donc, ça rallume la fierté dans l'Acadie du Sud-Ouest. Et c'est sûr qu'on va avoir des retombées, non seulement dans le Sud-Ouest, mais dans l'Acadie en général, et surtout de l'Acadie de la Nouvelle-Écosse. Oui, donc on est très contents, c'est sûr. La Société nationale de l'Acadie a changé les règles pour être hôte d'un congrès mondial pour la première fois pour ce congrès. Et en gros, les règles qui ont changé, c'est on peut pas dépenser plus qu'un million par jour et pas avoir plus que 10 jours, donc pour essayer de garder, de faire plus facile pour des régions d'appliquer. Puis l'autre chose, c'est la région géographique a besoin des plus petites. Donc, ces deux faits-là veulent dire que la région de Clare et Argyle, pour moi, c'est parfait. On est très proche d'un de l'autre. Et c'est sûr que les 2 jours du congrès vont amener plusieurs personnes ici. Et ça devrait avoir des retombées économiques exceptionnelles. On parle, tu sais, dans au moins 25 millions de dollars de retombées économiques dans la région.
La Nouvelle-Écosse a déjà accueilli le Congrès mondial acadien en 2004. C'est sûr que l'expérience de 2004, ça sera utile pour la planification de 2024?
Oui, très utile. Donc, c'est sûr, je présidais le comité organisateur en 2004. Van Madden, notre directrice générale, était là aussi en 2004. Ensuite, elle était directrice générale en 2019. Donc, on a certainement le savoir-faire et ce qui est nécessaire pour organiser un congrès. C'est sûr que ça va être plus facile d'une certaine manière, soit ici qu'en 2004. 2004, c'était, comme tu le mentionnes, à l'échelle provinciale, organiser des activités et des événements dans toutes nos communautés avec la distance géographique a été beaucoup plus difficile que ce qu'on prévoit ici maintenant dans le Sud-Ouest.
On est à 2 ans de l'événement. Les plans avancent bien?
Oui, ça avance bien. Donc hier, c'était le 10 août 2022, exactement 2 ans avant l'ouverture du Congrès mondial, le 10 août en 2024. C'est sûr que les années de COVID nous ont ralenti d'une certaine manière, mais quand même, on a pu se rencontrer. Donc, on est bien positionné et on a fait plusieurs planifications stratégiques. Donc, je demande à tous ceux qui s'intéressent de nous écouter et de nous suivre les prochains quelques mois, surtout pour des annonces au fur et à mesure qu'on peut confirmer des activités majeures.
Alistair Surette, qu'est-ce que vous souhaitez que les Acadiens du Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse vont retirer du Congrès mondial acadien 2024?
Ça, plusieurs différentes choses. C'est sûr qu'un meilleur sens d'appartenance à l'Acadie de la région, mais aussi d'avoir une meilleure vision sur l'Acadie en général et la francophonie en général, plus large, canadienne, internationale. Et l'autre chose, c'est que j'ai de voir c'est quoi le potentiel de l'Acadie en termes de développement économique et de développement durable de nos régions par après. Le Congrès mondial et la planification du Congrès mondial durant ces années-ci, ça devrait ouvrir la porte à des possibilités qui devraient être durables pour le long terme. Donc, j'espère voir des retombées durables dans nos deux régions pour un bon bout de temps.
Alors, bonne chance avec la préparation du prochain Congrès mondial acadien 2024 au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Alistair Surette, recteur de l'université, président du comité organisateur du CMA 2024. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Daniel.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Au On quitte les Maritimes et la région de la capitale fédérale pour faire un arrêt en bord de mer au Québec, en fait sur la Basse-Côte-Nord, où nous attend notre journaliste Pénélope Clermont. Elle qui nous rapporte que Wapukun Mestoukocho sera candidate du parti Québec solidaire dans le comté de Duplessis lors des élections provinciales du 3 octobre prochain. Mestoukocho est aussi, il faut le souligner, une fière représentante de la communauté Innue et sa candidature complète ainsi une équipe de 6 candidats autochtones qui vont défendre les couleurs de Québec solidaire au Québec. Je suis très fier que Wapukun ait choisi de marcher avec nous pour tisser des liens entre allochtones et autochtones. C'est en bâtissant des ponts entre le peuple québécois et les peuples autochtones que nous pourrons relever le défi de la transition écologique, pour sa part souligner la co-porte-parole du parti, Manon Massé, qui a pris part à une tournée nord-côtière durant laquelle elle a visité plusieurs communautés aux côtés de sa nouvelle protégée. Pénélope Clermont s'est entretenue donc avec la candidate Wapukun Mestoukocho et la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé.
Je ressens plein d'émotions mélangées. J'ai quand même été élevée là-dedans parce que ma mère a fait longtemps de la politique. Elle était conseillère au conseil de notre communauté. J'ai été élevée là-dedans, fait que c'est comme suivre le chemin qui a été tracé pour moi avant. En vrai, moi, tout ce que je veux, c'est si je suivrais mon cœur, puis ce serait d'aller vivre sur le territoire comme mes ancêtres, mais je sens cette responsabilité-là de défendre et de protéger, de porter ce message-là encore plus haut et plus loin dans ces instances-là gouvernementales québécoises et Canada.
Et j'imagine que selon vous, c'est avec Québec solidaire, donc que vous serez en mesure de le plus faire avancer, disons, les choses tout en portant le message de vos prédécesseurs, finalement?
Oui, parce que c'est le seul parti, je pense, qui défend nos enjeux, qui veut travailler avec nous d'égal à égal, de nation à nation, réellement. C'est eux qui sont venus me chercher puis qui me donnent cette opportunité-là de siéger avec eux puis de partager mes idées puis ma vision.
Madame Massé, je me tourne vers vous. On l'a déjà mentionné, là, Wapukun devient la sixième candidate issue de peuples autochtones au sein de Québec solidaire. Ça montre une ouverture franche du parti à intégrer plus de membres de communautés autochtones. Qu'est-ce que Wapukun va apporter au parti, selon vous, si elle est élue?
Pour Québec solidaire, la lutte au changement climatique est une priorité fondamentale. Et Wapukun a déjà démontré par ses expériences passées et aussi par sa vision du futur, qu'elle a tout ce qu'il faut pour venir travailler avec nous, pour imposer les changements nécessaires, pour faire en sorte de protéger le territoire, si je reprends ces mots, et je dirais pour assurer à nos concitoyens d'avoir une planète plus en santé. Nous, on est dans une posture où on a envie d'apprendre de son expérience, aussi des façons qui sont celles qui sont autochtones. Puis c'est pour ça le fait de pas avoir seulement une personne, mais une équipe de 6 personnes, on fait pas porter ça sur les épaules d'une seule personne. Ben pour nous à Québec solidaire, c'est une façon d'illustrer, je dirais, que nos bottines suivent nos babines.
Clairement, la volonté pour votre part, Wapukun, au sein de Québec solidaire, c'est d'apporter une vague de changement en termes d'environnement. Le terme d'environnement est très, très vaste. Est-ce qu'il y a des enjeux qui vous importent plus quand on parle de l'environnement au Québec et sur le territoire dans la circonscription de Duplessis?
Je veux protéger la terre, le territoire, parce que je l'aime puis elle me guérit. C'est ce que mes ancêtres m'ont légué. Puis je veux léguer une terre en santé aux futures générations aussi. Par exemple, je travaille pour la protection de la rivière Macpa et puis nous, on a donné le statut juridique de personnalité morale. C'est quoi le... En tout cas, il y a plusieurs... je souhaite que cette rivière-là ait un statut, qu'on la protège pour toute la vie, pour la vie, parce que l'eau, c'est la vie, puis sans, on ne survivrait pas sur notre planète. Mais c'est un mouvement mondial qui se passe un peu partout puis qui prend de l'ampleur des droits de la nature. Puis je milite beaucoup dans ce sens.
En fait, protéger, c'est ce que j'entends. C'est vraiment le maître mot dans la bouche de Wapukun depuis que je la connais. Et je vous dirais qu'à Québec solidaire, c'est aussi une grande volonté. Il faut protéger. protéger la rivière Magpie, certes, protéger des parties de territoire. Le caribou forestier est en train de disparaître parce que le gouvernement du Québec oppose prendre soin du caribou forestier ou des forêts, des cours d'eau à l'économie. Nous, on pense que ça, là, c'est vraiment une vieille façon de voir les choses. Il faut protéger, mais au-delà de ça, ça va prendre des changements. Par exemple, si je prends juste au niveau du transport, il n'y a pas de transport intermunicipal dans le coin. Alors, si tu as des soins à aller recevoir, soit à Saint-Pierre ou tout dépendamment où tu es, cette île, ben, puis que tu n'as pas de voiture, ben, tu es mal pris. Alors, nous, le transport collectif, c'est majeur pour Québec solidaire. Mais bref, l'important, c'est que les gens qui se déplacent puissent avoir l'opportunité d'avoir d'autres moyens de se déplacer que la voiture solo. Mm-hmm. Ça, pour Québec solidaire, c'est un engagement formel parce que les défis du 21e siècle exigent qu'on diversifie les méthodes de transport des individus. Et l'auto-solo est définitivement pas l'objectif à atteindre dans les prochaines décennies.
Est-ce que vous allez venir faire un tour en basse-côte pour rencontrer les citoyens? Est-ce que c'est prévu, tout ça?
Écoutez, moi, personnellement, Manon Massé, le plus loin que j'aurais été cette fois-ci, c'est à Equanimchit. Je suis allé à Pacouachpi l'autre fois, mais c'était pas dans le cadre électoral.
J'aimerais ça aller voir tout le monde, j'aimerais ça discuter avec tout le monde pour savoir leurs enjeux puis leurs priorités. Mais ça va dépendre du temps que j'ai puis des ressources, là, mais c'est sûr que j'aimerais ça.
Excellent. Beaucoup de pain sur la planche, donc, pour vous, Wapikun. En terminant, bon, je sais que vous avez collaboré là, pour trois documentaires avec Wapikoni Mobile, que vous faites des conférences avec Pouamoun Meshkenou. Désolée de la prononciation. est-ce que vous allez continuer à faire ces actions-là dans la communauté pour passer autrement votre message, peut-être?
Oui, parce que c'est pour moi, que je sois élue ou pas, je vais continuer ce que je fais pareil, puis... C'est ma mission de vie, je veux changer le monde, puis c'est, je pense que c'est ma manière à moi. Des fois, j'ai de la misère à m'exprimer, puis je suis gênée, puis j'ai beaucoup d'émotions, puis à travers le film, j'arrive à passer un message que je pourrais pas avec des mots, parce que je cherche mes mots, mais oui, je vais continuer.
Tous les moyens sont bons. Merci encore une fois à vous deux pour le temps accordé aujourd'hui. Bonne campagne électorale, puis on aura la chance de se reparler peut-être avant les élections du 3 octobre.
Pour le moment, les adversaires de Mme Mestococho dans le comté de Duplessis sont Roberto Stella du Parti conservateur du Québec et Kateri Champagne-Jourdain de la Coalition Avenir Québec.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
Termine l'émission avec les apiculteurs du Manitoba et du reste du Canada qui ne conserveront pas un beau souvenir de l'année 2022. La récolte sera désastreuse. Jason Gibbs, professeur associé d'entomologie à l'Université du Manitoba, affirme que les quelques 200 apiculteurs de la province auraient perdu près de 57 % de leurs essaims cette année. Leur production accuse par ailleurs plusieurs semaines de retard. Cela s'explique en partie par un printemps froid et humide. Les abeilles sont également affectées, semble-t-il, par des parasites comme le varroa, qui peut à lui seul décimer des colonies d'abeilles entières. Roger Desilets est l'un de ces apiculteurs. Il travaille depuis près de 40 ans avec sa femme Cathy à la Raven Creek Farm, située dans la municipalité d'Oakburn, à quelques 300 km à l'ouest de Winnipeg. Il y produit des bougies en cire d'abeille, des produits de beauté et bien entendu du miel. Il est au micro d'Aurélie Nana Forsen, postée à Saint-Boniface.
Tout est à peu près trois semaines en retard comparé à une année ordinaire. Alors,
On est presque au milieu. On est rendu au milieu de d'août ici. Et puis, vraiment, les abeilles sont à peu près au niveau qu'ils seraient vers la troisième semaine de juillet. Mais on a seulement que deux ou trois semaines d'été qui nous restent ici.
D'accord. Et est-ce que ça affecte vos productions pour cette année?
Oui, on pensait de peut-être faire seulement 25% de la production, mais je pense que on va peut-être être plus près à 50% de la production. Mais c'est parce que les abeilles ont tellement... le nombre d'abeilles a été tellement réduit par le mois d'avril et mai, parce qu'il faisait si frais et si c'était si humide. Alors, le nombre d'abeilles n'était pas là, mais maintenant, on arrive où ce que le nombre d'abeilles sont là, les récoltes sont là, le soleil est là, mais on a peut-être deux semaines qui nous restent. Et puis après ça, vraiment, les journées sont plus courtes. Et puis, pour moi, la fin de la saison pour le miel, c'est après le 25 août. Alors, on a seulement 10 jours à aller.
Est-ce que vous avez pensé à des solutions de rechange ou à changer quelques-unes de vos habitudes par rapport à cette situation?
Au printemps, il a fallu qu'on fasse plus de manipulations pour renforcer nos ruches. Alors, ça, c'est la chose la plus différente qu'on a fait. Ça, c'est prendre les rayons d'abeilles de les plus fortes ruches, les mettre dans les moins fortes ruches, et puis mettre ces petites ruches-là au-dessus de les plus fortes ruches. Alors, on fait beaucoup de manipulation, management. Mm-hmm. On élève nos reins nous-mêmes. Ça fait à peu près 15 ans plus qu'on fait ça. Alors, on peut choisir les genetics qu'on veut. On veut choisir de nos meilleures reines. Alors, non, on n'importe pas d'abeilles, nous, ici. Nos abeilles sont de meilleures. En meilleure santé si on les tient sur les récoltes biologiques.
Eh bien voilà, vous reconnaissez la trame sonore qui sonne le glas pour nous à Point de vue. Merci à nos journalistes cette semaine, Sébastien Caron, Daniel Aucoin, Pénélope Clermont et Aurélie Nana-Forsen. On a dû faire un peu vite pour vous faire une place cette semaine. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés. Vous dire que vous pouvez écouter les reportages produits par une quinzaine de journalistes au pays sur canada-info.ca. Ce que vous entendez ici ne représente qu'une infime partie de ce qui est produit chaque semaine à travers le pays. Notre équipe de journalistes anglophones et hispanophones s'y trouve aussi avec une foule de sujets. Merci à notre coordonnateur national Stéphane Bénard et au Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa qui a eu l'idée et qui produit cette émission. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. À la semaine prochaine.
@CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.